Il y avait beaucoup d'autres films au Festival du film coréen à Paris cette année, beaucoup d'autres films que nous n'avons pas forcément le temps d'évoquer, mais nous allons prendre néanmoins quelques minutes. Et à chacun, je vais vous demander un oubli qui vous tient à cœur. Justin?
Oui, donc je vais parler des courts-métrages, donc une séance spéciale qu'il y a eu autour des courts-métrages de Choi Soo-jin, donc qui avait remporté le prix du court-métrage l'an dernier avec son Lovers. Et donc là, il y a eu une rediffusion de Lovers ainsi que ses trois précédents courts-métrages, donc Maria's Talisman, Punch Drunk Movie et Airland. Donc c'était assez intéressant, ça a amené une continuité par rapport à ce qu'on a pu voir dans Lovers. Donc Lovers, c'était l'histoire d'un jeune garçon qui va faire son coming out, enfin qui va révéler à son père son homosexualité, qui hésite. Et donc ça prend un tour un peu plus cocasse, un peu plus vaudeville, vu qu'il va découvrir aussi des choses, d'autres secrets que lui dissimule son père. Donc c'était assez drôle, tout en étant assez touchant sur cette courte durée. Et puis par rapport aux autres courts-métrages, on voit qu'à chaque fois il y a un questionnement par rapport à ces personnages de ce réalisateur sur le devenir, enfin l'avenir professionnel ou personnel que se cherchent les jeunes personnages dans les différents courts-métrages. Vu que Maria's Talisman, c'est sur un jeune homme qui aspire à devenir prêtre. Et donc, il y a sa mère qui n'est pas du tout spirituelle ou religieuse ou quoi que ce soit, qui va lui dissimuler un talisman pour l'aider à remporter son examen. Et donc, c'est assez drôle aussi. Et donc, Punch Drunk Movie, c'est un peu le meilleur dans les nouveaux qu'on a pu découvrir là, sur un cinéaste qui s'apprête à se suicider et qui est sauvé in extremis par une jeune fille en costume qui passait par là, qui vient donc l'aider. Donc il essaie de lui raconter son dernier film qu'il n'a pas pu faire. Et en fait, toute la narration, c'est un jeu de pistes. Enfin, c'est un espèce de. Le film qu'il lui raconte, c'est en fait un mix de plusieurs films qu'il apprécie, qu'il y a en affiche dans la pièce. Donc,
un peu à la mode.
Oui, c'est ça. Il y a un bruit. Voilà, il utilise tous les éléments du décor pour raconter l'histoire d'un film qui n'existe pas. Donc, enfin, même le spectateur peut repérer au niveau des références avant que ça soit connu à la fin du film. Voilà, il y a Titanic, il y a
Avatar.
Enfin.
Il n'y a que des films Cameron, en fait.
En plus, c'est vraiment des éléments grossiers. Ça fait une espèce de film dans le film complètement grotesque, mais assez amusant. Puis il y a Rebound, qui est le dernier, qui est beaucoup plus court, mais qui est quand même assez intéressant aussi. C'est donc sur une tennisman qui a eu un accident et qui ne peut plus pratiquer son métier, donc qui est un peu en dépression. Et qu'il y a un voisin du dessus qui fait un bruit qui lui rappelle le bruit de la balle de tennis sur le court, et donc il va essayer d'aller voir son voisin pour lui dire d'arrêter. Et là aussi, bon, il y a un tour assez amusant sur la nature du bruit en question, comment il va résoudre la chose. Et donc c'est assez amusant, sur les quatre courts-métrages, on remarque quand même une continuité, un univers intéressant, des personnages quand même assez riches, donc sur ce thème de personnages juvéniles qui se cherchent d'une manière ou d'une autre. Donc c'était plutôt intéressant. Ça donne envie de voir ce que ça donnera en long métrage. Donc Choi Soo-jin.
Choi Soo-jin. Je voulais juste dire une petite chose. Bientôt, l'interview de Choi Soo-jin sur Istasia.
Quelqu'un va rebondir d'ailleurs sur
prix. Tu les as vus, non, Martin?
Ouais. Ah oui, pour faire une interview quand même.
C'est pas fou.
Bon, quoi que.
Plus d'informations.
Quand on est un vrai journaliste, on n'a pas besoin de voir.
Martin est un vrai journaliste.
Célia, est-ce qu'il y avait un oubli du festival que tu veux mettre en avant?
Alors, en fait, plusieurs. Et donc, dans la continuité de Justin, c'est les courts-métrages. Moi, je suis une fan de courts-métrages et j'essaie d'assister à tous les shortcuts des FFCP. Et on a été mais vraiment vernis. Déjà, je n'ai jamais vu autant de monde à toutes les séances de Shortcuts. Alors j'étais super fière pour eux.
Oui, c'est rare.
Parce que pour beaucoup, c'était une consécration de leur travail. Et c'est vrai qu'en termes de qualité, c'était très surprenant. Rien que déjà la première sélection, mais il n'y avait absolument rien acheté. Et je voudrais évoquer justement trois courts-métrages qui m'ont beaucoup marqué. Et vraiment pour des raisons complètement différentes. Mon préféré ultime et qui a été primé, justement, pour le prochain Fly Asana. C'est Barken, ouais. Barken de Lee Chung-yoon. Et c'est un coup de maître pour moi, parce qu'en termes de narration, c'est un long plan séquence, et on suit une jeune fille qui se prostitue face à un homme, je pense, d'une trentaine bien tassée, début de quarantaine, et s'instaure en fait un jeu de défiance, parce que cet homme veut absolument s'assurer de la prestation de cette jeune fille, comme quoi elle est vierge, et on se rend compte au fur et à mesure que bah, en fait, c'est une arnaque, mais ça va beaucoup plus loin, et c'est ça qui est intéressant, sans rien dévoiler du reste de l'histoire, c'est que ce plan séquence est absolument ingénieux, vraiment, mais super bien monté, et pour coup, ça a été ma claque en termes de court-métrage.
Du coup, on pourra le revoir, enfin, le voir, le revoir ou le voir lors de la prochaine édition avec tous les courts-métrages du réalisateur.
Comme chaque vainqueur de chaque année, il a été projeté avant la soirée de la culture, du coup, on a pu tous le voir, enfin, tous ont été là. Et c'est vrai qu'on est à peu près tous unanimement assez impressionnés par le court-métrage, parce que souvent, quand plan-séquence, court-métrage et plan-séquence, on a déjà eu plein, hein, et des fois, c'est pas forcément très justifié, quoi. C'est plus pour l'expérience technique, enfin, voilà, que vraiment servir le récit. Et là, pour le coup, c'est vraiment incroyablement utile d'utiliser le plan-séquence. Mmh.
C'est le récit, de toute façon, qui dicte, voilà, dire,
le plan, quoi. Mmh. Et surtout, ça fait longtemps que j'ai pas vu, hein, parce que les courts-métrages, pareil, à twist.
Toujours que ça repose sur la chute.
Voilà. Ouais. Mais pour le coup, là, c'est vraiment tout le film arrive et construit
sur cette idée de marchandisation du corps. Voilà.
Et il y a vraiment. Et puis la fin est.
Et il se fait en deux temps. En plus, la chute, comme elle se fait en deux temps, je ne s'attends pas à la troisième chute, mais qui est, encore une fois, pas gratuite.
Non. Et tu ne peux pas la deviner. Enfin,
la fin, tu es là. Mais... C'est super ingénieux, c'est très intelligent.
C'est ça qui est chouette, c'est que bien que ce soit un court-métrage, on est obligé de se rembobiner ce court-métrage en disant « Ah, mais c'était tel indice
qu'il y a plein de petits indices. »
Qui aurait pu nous amener à la seconde chute, etc.
Et sans que ce soit un jeu de piste.
Oui. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le jeu de caméra, donc le placement. Donc, il a dû, je pense, beaucoup répéter, beaucoup travailler, parce que la façon dont il va suivre cette jeune fille, que ce soit dans les couloirs ou sur un toit, vraiment, c'est d'une fluidité. Et franchement, j'ai été bluffée. Et je me suis dit « Waouh !» J'ai hâte de voir. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'en discutais avec le programmateur des courts-métrages, c'est qu'il n'a pas beaucoup produit. C'était son film de fin d'année. Donc, on ne sait pas s'il va produire d'autres choses d'ici la prochaine édition du FFCP, mais en tout cas, ça augure de bonnes choses.
Peut-être la Corée du Parc, s'il lui donne un...
Oui. Mon deuxième coup de cœur, qui avait aussi beaucoup plu à pas mal de public, c'est Virgin Rider de Kim Ji-young. En fait, ça part de l'émancipation d'une jeune femme qui en fait rencontre une inconnue qui va lui donner des cours de moto. Et le petit grain de sable dans cette histoire, c'est le mari de cette jeune femme qui en a marre d'entendre cette moto circuler dans un quartier assez calme. Et il peste à chaque fois qu'il l'entend, alors qu'elle, en secret, elle suit ses cours de moto. Et c'est touchant de voir cette jeune femme vraiment s'affirmer et se dire « Bah non, bah moi, c'est mon loisir, c'est mon kiff. » Et puis à un moment donné, elle va lui dire « Merde !» Elle va lui dire « Eh ben, c'est moi qui fais de la moto, au final. » Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce portrait de femme, de femmes qui se soutiennent entre la motarde et la jeune femme qui prend des cours de moto. Et c'était vraiment aussi une très belle interprétation. Et le troisième court-métrage qui m'a énormément émue, j'ai pleuré, s'appelle First Love de Kang Ji-suk. C'est l'histoire en fait de deux vieilles dames qui sont en couple depuis au moins 40 ans. Elles se sont connues au moment où elles étaient lycéennes. Elles sont tombées amoureuses. Et on découvre en fait par petits flashbacks la naissance de leur amour. Et en fait, on est à chaque fois projeté dans la dure réalité que l'une d'elles est malade, va bientôt mourir. Et sa compagne qui reste va être confrontée à, on va dire, sa pseudo belle famille qui n'a jamais accepté la relation lesbienne de ces deux femmes et de comment en fait cette compagne essaie de se battre au moins pour rester dans l'appartement. et c'est très compliqué parce que son beau-frère ne veut pas, elle veut qu'elle disparaisse de leur vie, et j'ai été très 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 émue par l'interprétation de ces deux femmes, c'est très 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 touchant.
Ça me fait penser au deuxième film du réalisateur Patrick Wong, c'est ça?
Ah oui,
c'est son deuxième film.
Les autres, non, c'est... Oui, en plus, j'adore ces deux films.
Et c'est un des meilleurs réalisateurs que j'ai vu. Le deuxième film, mais justement, c'était ça partait de ce postulat où lui, il était en couple avec un autre homme, et cet autre homme meurt au début du film. Et en fait, on voit toutes les conséquences par rapport à la famille de cet homme qui est mort, et lui qui est finalement rejeté par cette famille, alors qu'elle était pseudo-acceptée tant que son mari était là. Quoi.
Bah là
et c'est super intéressant comme film.
Et ça, c'est In the Family.
Ouais, c'est son premier film, c'est In the Family. Patrick Wong, c'est un réalisateur à suivre. Si il est américain, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que ce court-métrage m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, on parle pas encore beaucoup de l'homosexualité et du quotidien. En fait, personnes âgées, elles existent. Il y a beaucoup de relations, je pense, qui sont clandestines et de ce qu'elles doivent endurer parce que c'est un tel tabou, eh bien, que c'est déjà compliqué d'être une vieille personne en Corée du Sud quand on n'est pas bien fortuné, mais a fortiori quand on est homosexuel ou lesbienne, eh ben, on n'a pas beaucoup de place et c'était vraiment un très très beau portrait de femme.
Kefren, est-ce qu'il y a un oublié du festival que tu voudrais mettre en avant?
Moi, c'est Dong Joo qui a été mon coup de cœur personnel parce que ça raconte les dernières années de la vie d'un poète à l'aune de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est que on pourrait dire que c'est un film classique, mais en fait, c'est un film très 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 épuré et qui justement, au lieu de tendre dans le chaos de l'époque pour exprimer la vie du poète, se renferme sur la personne qu'était le poète et sur sa poésie, au lieu de montrer le chaos qu'était la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la Corée, etc. Et il laisse la place justement à la poésie et à la vision du poète dans le film. Et tous les choix esthétiques accompagnent comme ça cette vision poétique que porte Dong Joo jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en fait. Et c'est ce que j'ai aimé dans le film.
Moi aussi.
Quelqu'un d'autre veut réagir sur
ça? Non, je préfère pas.
Non, je l'ai pas vu.
Bon.
Lila.
Alors pour moi, ce serait Project Get Up and Go, qui est un faux documentaire totalement déluré sur la genèse d'une chanson. Censé donner de la motivation, du paiki, pour reprendre le mot de la chanson. Alors on suit un jeune chanteur raté qui, au moment où il est au fond du trou, va faire la rencontre providentielle de cet homme qui est Domin Gaznam, qui est un petit peu la coqueluche de ces dames avec son charme la mexicaine, puisque il se promène avec un boléro et une moustache avec une chanson extrêmement romantique intitulée J'éjacule sur toi. Donc on voit tout de suite le niveau de subtilité de son art. Et le film va un peu raconter comment Domin Gaznam va prendre le héros sous son aile, l'entraîner. Au-delà de ça, il y a la relation avec le réalisateur et son assistant qui passent très vite de l'autre côté de la caméra, qui deviennent des personnages aussi tout aussi hystériques. Alors on est effectivement dans un humour qui a des ficelles assez grosses, qui n'est pas particulièrement fin, mais qui malgré tout ne paraît pas vulgaire parce que... Il y a malgré tout une certaine tendresse dans la façon de cerner ces personnages, et puis il y a une dérision, ne serait-ce que dans le montage, qui est très over the top. Je pense à une scène qui est reprise 4 fois sous différents angles pour vraiment exagérer la réaction du personnage. Je trouve que c'est quelque chose qui était vraiment rafraîchissant, très second degré. On regrette un petit peu sur la deuxième partie que peut-être il essaye un peu plus de devenir plus sérieux, de porter un message, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais peut-être traîne un petit peu trop en longueur. Mais dans cette édition, ça a été un vrai coup de frais et pas un grand film, mais vraiment agréable à suivre.
En fait, ce film, c'est le personnage de Domin Gaznam qui fait le film, parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. Il aurait pu vite en faire un personnage bouffon de comédie quand on en a des centaines, et au final c'est un personnage beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus riche, et forcément on s'attache forcément à ce personnage qui est tient un personnage qui parle à tout le monde, quoi, qui s'identifie facilement, et sans dévoiler un peu trop du scénario, mais c'est un personnage qui va vraiment... C'est le genre de personnage dans les films, en fait, qui va faire évoluer les autres personnages. C'est-à-dire que c'est le personnage qu'on rencontre...
De et catalyseur. Qui va...
Voilà, c'est un catalyseur, exactement. C'est le mot que je cherchais.
C'est un petit peu Tony Herman, en fait, dans le film.
Oui, c'est un peu ça. Mais voilà, donc c'est ce genre de personnage. Moi, ça, je suis fan de ce genre de personnage qui sert de catalyseur justement à, pour que les autres personnages avancent dans leur vie.
Mais qui se révèle voilà, au fur et à mesure.
Et qui se révèle au fur et à mesure en plus. Ouais, et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a même, on soupçonne à un certain moment une relation quasiment crypto-gay entre le. Entre. Ah, c'est, ah, y a quand même des indices. Enfin, la séquence de la chanson, quand même, vers la fin, c'est assez. Mais je trouve ça
de la touchant. De la crypto-plein air, il n'y a qu'un pas.
Mais c'est super touchant, en fait, la relation entre ce
personnage
de Miguel Lam
et
le chanteur
qui s'insinue malgré nous.
Qui est supposé coacher, quoi. Et voilà, quoi, c'est assez.
Alors, une très belle surprise.
Ouais, mais c'est.
Ça dépasse ça.
Ça se sent quand même par moment qu'il veut aller vers.
C'est Socratique.
Il a deux doigts d'y aller quand même. Mais c'est pas. Ça va, mais franchement, c'est super touchant, je trouve.
Alors, Nicolas, donc tu as la parole justement.
Du coup, comme tout le monde a parlé de mes coups de cœur, beaucoup vont en parler. Bah, moi, je vais parler de Old Days, du coup, qui est donc le documentaire qui a été réalisé déjà il y a pas mal de temps, je crois, il y a au moins ça devait tourner
2016,
pour les 10 ans.
C'était tourné...
J'ai l'impression que c'est juste 10 ans après.
La production est 2016.
Ouais.
Et donc ça, c'est un espèce de grand documentaire sur le tournage d'Oldboy et ses conséquences sur l'équipe de tournage. Et donc, on pouvait s'attendre à un documentaire peut-être un peu plus centré sur les conséquences de Oldboy sur le cinéma coréen, alors que en fait pas tant que ça. C'est que bon, il y a déjà eu des making-of, comme tu disais Martin, il y a déjà eu pas mal de making-of autour du film, et là ça a aussi un air de making-of du film. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'il a été tourné 10 ans, enfin plus de 10 ans après le film. C'est le recul qu'ils ont sur le tournage, et c'est ce qui fait tout l'intérêt du documentaire, quoi. C'est leur témoignage par rapport à l'impact que ça a eu sur leur vie. Et cette recherche un peu depuis Oldboy d'une sensation qu'ils n'ont jamais retrouvée, quoi, dans les autres tournages, une intensité.
Ça permet aussi de recontextualiser aussi Oldboy. Enfin, faut rappeler, c'est qu'Oldboy, c'est une production indépendante, que c'est un film qui a coûté pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment un budget très serré pour.
Et faire ce qu'ils ont fait.
Exactement. Enfin, pour beaucoup, Oldboy, il y a une espèce de patine par Chan-wook. En effet, une photographie superbe, une très belle direction artistique. Donc, oui, il y a un côté classieux. Et en réalité, les mecs, ils ont crevé la fin pour faire le film.
Voilà. Et ce qui, en fait, c'est assez mouvant, c'est de voir, en même temps, dans leur témoignage, qu'ils regrettent ce moment-là. Mais en même temps, ils ont chié, quoi. Le producteur, il est à la limite du suicide, quoi, même 10 ans après, tu vois. C'est genre, putain, qu'est-ce que j'ai galéré.
Ils ont fait voir
de toutes les couleurs et tout. Il porte encore les stigmates de ce tournage dans sa voix, quoi. Et en même temps, il regrette cette époque. Enfin, il y a cette espèce de dualité qu'il y a dans toutes les interviews. Et puis, l'actrice, pareil, on l'entend parler. Elle, par contre, elle a envie de revivre ça, absolument. Quoi. Ça lui manque beaucoup.
Une espèce de solidarité.
Solidarité d'équipe. Quoi. Des mecs qui sont prêts à pas dormir pendant 48 heures pour que le film se fasse et qu'il soit dans les temps et tout. Quoi.
C'est assez intéressant de voir Park Chan-wook qui revient... du coup 10 ans après sur le tournage du film et qu'il se rend compte qu'au fait c'était un gros branleur à vouloir refaire 10 ou 15 fois les mêmes scènes, à les refaire tout le temps, alors qu'au fait il pouvait les faire en deux prises, quoi.
Surtout les scènes en extérieur, il disait, mais quand il y a tous ces gens qui sont autour et qui regardent, ça gêne l'équipe.
Changer les bus à Busan pour pas qu'on voit que c'est Busan. J'ai bloqué la circulation.
Exactement, il y avait des trucs de bon, voilà.
Et puis on voit aussi Chae Min-sik d'une autre manière aussi, la manière dont il a poussé l'équipe, poussé l'actrice justement à donner le meilleur et tout. Et tu sens que bon, c'est l'acteur qui a du caractère. Mais tant que tu te donnes à fond pour le film, il est derrière toi, quoi. Il se trouve que ça donne un témoignage touchant par rapport au... Puis il est drôle, quoi. Enfin,
intervention. On voit que c'est un travail. En fait, le film, ça a été un travail collectif total, quoi. Ouais. Entre ce qui est entre Park Chan-wook, l'équipe technique qui est maquillage, tout chef-op et tous ces trucs-là, plus tous les acteurs entre eux qui s'aidaient. Tu vois que c'est pas Park Chan-wook
qui était l'idée sur sa propre idée du film, mais ouais,
il y avait des votes et tout.
Voilà, que tout le film a été nourri par l'équipe de tournage qui l'accompagnait. Quoi.
Sans Parchamon qui disait, il écoutait tout le monde. Même le stagiaire, s'il avait une bonne idée, il faisait, ok, on la met dans le film. Quoi.
En revanche, c'était considéré comme un dieu, hein, parce qu'à un moment donné, le directeur de l'école disait, mais je voyais un espèce de petit groupe de gens, et puis vraiment réel, c'était un peu le miel. Avec les abeilles autour.
Ah oui, bien sûr.
Mais moi, ce qui me touche d'autant plus, c'est avec justement cette temporalité de 10 ans, quand on voit Monsieur Han de Sanei Pictures, donc le producteur. C'était le producteur de Hot Boss, qu'on a revu au FFCP quand même, qui est venu pour présenter Azura. C'est quand même le grand écart.
C'était lui qui s'endormait à moitié sur scène.
C'est le même bonhomme.
Est-ce qu'il a autant morflé pour Azura que pour Hot
Boss? Parce que Azura, ça avait pas la peine.
Mais il aurait peut-être dû.
Ouais.
Il regrette
Azura. Si, il a quand même galéré sur Azura parce qu'il y avait des scènes d'action très compliquées à gérer et que c'est pas un Yu Song Wan, hein, le réal de Azura.
C'est moins compliqué de dire.
Et qu'ils ont eu quand même pas mal de galères et de pètes. Et je pense qu'il a dû se dire, mais c'est vrai que sur Old Boy, j'en ai vraiment chié. On voit le cascadeur, ça m'a touché aussi.
Qui s'est cassé les dents.
Fois, ouais. Et puis malheureusement qui est décédé, si
j'ai bien compris. Oui, on comprend.
Il a galéré, mais il avait tellement envie de bien faire et que Park Chan-wook soit tellement content. Le pauvre, il s'est cassé les dents.
Et on comprend à un moment aussi qu'il a eu un gros accident sur le Bon Labo de Cinglé. Quand tu vois les cascades du Bon Labo de Cinglé, c'est pas... Si c'est tourné à la Corène, c'est pas très étonnant qu'il y ait des accidents d'ailleurs.
C'est pas très étonnant qu'il soit mort.
C'est possible aussi.
Oui. Alors moi je vais parler du documentaire Reach for the Sky. Voilà.
On passe à un autre univers.
Voilà, autre univers totalement différent. Qui.
Avec des gamins qui dorment pas pendant 48 heures aussi, mais voilà. Même plus. Mais...
Qui suit en fait trois lycéens qui préparent l'examen final pour rentrer à l'université, qu'on appelle le Sunung. Qu'on a déjà... c'est un thème qu'on a déjà vu dans des films de fiction comme Plutôt de chez Swan, par exemple.
Le titre français est
Sunung.
Sunung, effectivement.
Précédemment. Titré plus tôt.
Oui, mais ce que j'ai dit, mais je me suis plantée. J'ai changé le titre. Et donc, dans ce documentaire, on suit trois lycéens qui ont trois parcours différents. Je ne sais plus si je me rappelle forcément tout. Il y en a un qui passe pour la première fois le Sunung, un qui c'est pour la deuxième fois, et le troisième... Qui est dans une école privée. Et donc, en fait, l'acronyme SKY désigne les trois plus grandes universités coréennes. Qui ont des pourcentages de réussite, 0,1% des étudiants y intègrent. Donc en fait, ce qui est l'équivalent de notre année de terminale à nous, pour les lycéens coréens, est une année de véritable torture, puisqu'ils se mettent tous une pression considérable pour intégrer ces trois fameuses universités, en se disant que s'ils n'arrivent pas à intégrer ces universités-là, leur vie professionnelle, leur vie tout court est foutue. Le documentaire est vraiment très bien fait. C'est même étonnant dans un documentaire en fait, d'avoir un rythme qui ressemble à un film de fiction. On a du suspense. On sent vraiment la pression en fait, que ressentent les lycéens, mais que ressentent tout le pays en fait le jour J où tout est mis en place en fait pour qu'ils puissent arriver à l'heure pour passer l'examen, que pendant l'épreuve orale d'anglais il n'y a plus d'avions en fait qui survolent le pays. Enfin, c'est complètement hallucinant en fait, et du coup c'est un documentaire super intéressant, que ce soit sur le point de vue du système éducatif coréen, mais aussi sur la société coréenne dans sa globalité. Donc on va voir des gens de différentes confessions religieuses les parents qui vont aller prier des heures et des heures au temple, d'autres qui vont aller consulter une chamane, etc. Et on voit tout ce paradoxe en fait de la société coréenne dans son ultra-modernité, dans ses superstitions,
En fait, que les lycéens se mettent une pression incroyable, alors que certains parents leur disent non, c'est pas grave, enfin, si tu rentres pas dans cette université là, tu vas pas en mourir, tu peux faire quand même une belle carrière dans une autre université. C'est vraiment intéressant, il y a plein de thèmes. Le petit reproche que j'aurais à ce film, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes abordés et finalement certains auraient mérité un peu plus d'être exploités. Et ils le sont pas, donc c'est vrai que. Enfin, moi je.
Il a qu'une heure et demie, voilà. La version qui va être diffusée sur Arte, elle fera 52 minutes. Donc
par exemple, on suit tout le développement des écoles privées, en fait, notamment avec des professeurs qui sont des véritables stars, qui remplissent des amphithéâtres.
Et qui sont millionnaires.
Qui sont millionnaires, c'est complètement dingue.
C'est une présentation d'Apple.
Et en fait, au fur et à mesure, on comprend qu'on peut passer cet examen plus ou moins en candidat libre, etc. Mais c'est vrai que le système est assez compliqué. Et si on n'est pas. Si on le connaît pas à la base, en fait, il y a peut-être moyen de se perdre un petit peu. C'est le seul petit point négatif.
Vous savez si la version qui sera diffusée sur Arte en format 52 sera un peu plus explicative avec des panneaux.
Je sais pas, mais c'est vrai que je pense que ça mériterait.
Il n'est pas très content avec cette version-là.
C'est compliqué quand même. C'est assez compliqué.
Il y a une interview à lire sur le site.
Et même dans la. Tout simplement, même dans les différentes confessions religieuses en Corée, c'est pas forcément évident de s'y retrouver aussi. Il y a plein de thèmes super intéressants qui sont juste évoqués. C'est un peu frustrant, mais en une heure et demie, et on peut pas tout faire. Donc ça aurait mérité peut-être 2, 3, 4 documentaires différents en fait pour expliquer tout le contexte.
Il faut bien savoir ce que le documentaire à la base, au début, il fallait vraiment suivre les professeurs en fait, qui créent les sujets pour le Sunang. En gros, ces professeurs, enfin, c'est un peu comme vous savez, les 12 hommes en colère, là, c'est les jurés, ils les foutent dans un hôtel pendant 3 semaines, tu vois. Ils n'ont pas le droit de téléphoner, d'envoyer de mail ou quoi que ce soit. Tu as des services d'ordre,
c'est comme un transport de fond.
Vraiment, ils surveillent leurs moindres faits et gestes, et en gros, ils doivent rédiger
Et comment on est passé d'un sujet de suivre les professeurs?
Parce que ça te faisait chier de rester enfermé 3 semaines avec ces gars-là.
Voilà. Il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, effectivement.
Voilà. Donc, il s'est dit, on va peut-être trouver un autre angle, et puis, du coup, ils se sont dit... On va essayer de caster des jeunes et voir, en fait, suivant certains critères étaient préétablis, de trouver des jeunes qui correspondent. Et puis, c'est comme ça.
Et c'est pareil, en fait, on voit que les professeurs mettent énormément de pression aussi sur leurs lycéens. Et dans le système français, on n'a pas forcément la pression pour le bac, mais il ne faut pas déconner. Mais il faut savoir, en fait, qu'en Corée, eux aussi, en fait, les professeurs ont aussi des résultats pour pouvoir progresser en fait dans leur carrière. Donc plus ils auront d'étudiants qui auront réussi à intégrer, enfin de lycéens qui auront réussi à intégrer telle ou telle université, plus leur carrière va pouvoir évoluer. Mais ça, faut le savoir à la base en fait. Donc c'est vrai que je sais pas si je serais curieuse de savoir en fait quelle est la réaction de quelqu'un qui ne connaît strictement rien au sujet. Je serais assez curieuse parce que c'est quand même très complexe comme.
Faut bien savoir, c'est de toute façon des lycées, hein, c'est des la zone, les
l'école primaire, ils font des cours en plus de toute façon. On le voit bien dans The World of Us, Transition Magique.
Voilà, mais faut bien savoir, c'est que des lycées, ils quittent pas les cours avant minuit. Hein.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des moments.
Ils voient leurs parents et certains même pas. C'est, en gros, ils rentrent pour se coucher, ils repartent à 6h du matin pour aller.
Donc ça manque peut-être un petit peu de contextualisation. Voilà, mais
c'est l'aspect tout passionnant, très passionnant, c'est que, en fait, toutes les strates, alors c'est vrai qu'il y a plein de pistes et qu'elles ne sont pas explorées à fond, faut le temps, mais on est quand même impressionné de découvrir un pays et toutes les strates, que ça aille de l'individu à la société, et comment tout est régi et mobilisé autour de cet examen. Et franchement, ça permet de comprendre. Déjà au moins quelques petites choses qu'on perçoit dans d'autres films, dans d'autres fictions et dans d'autres documentaires, quand on sait ce niveau de pression à toutes les strates. C'est comme ça définit le statut social et la carrière, y a véritablement une attente et c'est touchant parce que la jeune fille qui réussit en fait son Sunang et qui a un excellent résultat et qui obtient en fait l'université qu'elle veut, elle arrive à avoir ce recul à la fin de dire... Certes, l'excellence, et moi c'est ce que je répète toujours, c'est mais au détriment de mon humanité. mais c'est pas ça que je veux. Et elle, elle souhaite pour elle-même d'être une bonne prof, de pas être une prof castratrice qui va dire à ses élèves faut absolument réussir, rentrer dans les clous, parce que quand bien même elle a réussi, pour elle, elle le dit à un moment, c'était pas ma voie du bonheur, celle que j'imaginais de bonheur. J'ai raté mes belles années d'adolescente.
Ah, d'adolescente, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés à l'université,
oui,
c'est...
Oui, après, voilà.
Ouais. Après,
c'est tranquille, c'est l'inverse de chez nous, en fait, où une fois qu'on a la fac, il faut qu'on se bouge un petit peu, quand même.
Ah non.
attends, master, tu verras.
Non, ça va.
Master 2, alors, je sais pas. Mais enfin, je sais pas où vous êtes allé, mais moi, j'ai bossé, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé.
Non, mais on bosse en classe prépa en France.
Ouais, mais c'est ce que... Ah, mais je l'ai fait, c'est pour ça.
Mais
Anthony. Oui, alors moi, plus qu'un oubli, c'est un vrai coup de cœur, voire une révélation. C'est Steel Flower de Park Sung-young. C'est un deuxième film, malheureusement, j'ai pas vu son premier, qui avait pourtant été diffusé au FFCP il y a 2 ans. Et bah là, oui, le film m'a absolument cueilli, pour une soeur, ça tombe bien.
Séoul Hypnotique.
Séoul Hypnotique,
oui, c'était pas la FFCP, première diffusion de Park, c'était Steel Flowers. White Flowers, c'était Séoul Hypnotique, on prend des images l'année dernière.
Il y avait White Flowers, ils étaient aussi au Black Movie.
Enfin,
anyway.
Non, voilà, tout ça pour dire que le film m'a vraiment subjugué pour plein de raisons. Déjà, je crois qu'on est beaucoup et souvent à dire en sortant d'une séance d'un film coréen, c'était bien, mais c'était trop long. On peut toujours couper 15 ou 20 minutes. Bah là, le film se tient. On dit souvent ça. Et là, le film dure à peine 1h30, générique compris. Même pas, 1h20, je crois, générique compris. Et il n'y a pas un bout de gras, il n'y a rien en trop. Le film attaque directement par un montage très très syncopé, très brut, avec une fille comme ça.
Et pourtant, il joue sur la longueur des scènes.
Et il joue sur la longueur. Enfin, ça alterne à la fois un montage très rythmé, des longs plans séquences qui prennent leur temps, mais qui sont toujours dans un sentiment d'urgence. Le film m'a immédiatement happé par cette. Enfin, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Il y a une valise comme ça qui est...
Bah, on ne voit pas son visage avant 5 minutes de film, quoi.
Ou plus que ça. Au début, j'avais même un peu peur de ce côté un peu maniérisme, genre je repousse, enfin, un côté très frère d'Ardenne, avec l'aspect social. On monte les gens de dos, qui ont une démarche très rapide, très nerveuse, etc.
Et après, ça arrive sur cette jetée. Enfin,
Je crois que tu as bien aimé.
J'ai beaucoup aimé.
Je ne suis pas le seul à défendre le film. Et voilà, ouais, le film a ce sentiment d'urgence, de capter les choses, mais sans dialogue. On pourrait pratiquement couper pas la bande sonore, mais les dialogues, et percevoir le film avec la même force, la même intensité.
L'héroïne
très parle peu, très très peu, et elle dégage une force magnétique qui est admirable. Alors elle s'appelle Jeong Adam, elle a un tout petit rôle, on peut même parler de figuration dans Mademoiselle de Park Chan-wook.
Et dans Age of Shadows.
Dans Mademoiselle,
elle fait la
troisième ou la quatrième scène.
Oh, j'ai pas tout capté, quoi.
Il me semble qu'elle est dans une ou deux scènes.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Pourtant, elle
vient de recevoir le prix de la meilleure nouvelle actrice par l'Association des critiques de films coréens.
Bah voilà, amplement mérité, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un visage imprégner autant la pellicule. Enfin, la pellicule, on n'est plus à la pellicule, mais imprégner autant l'écran. Elle dégage une force, une fragilité, une tension. Il y a vraiment quelque chose qui m'a bouleversé dans son regard. Et en plus, le film, tout en étant très social, n'est pas forcément trop misérabiliste ou trop démonstratif. Il est toujours dans le juste milieu. Et c'est une jeune SDF qui arrive à Busan, qui dévoile d'ailleurs un Busan qui n'est pas du tout l'image de Busan qu'on a habituellement. Là, c'est sordide, c'est glauque. C'est pas très accueillant, c'est des rues qui sont pas bétonnées, qui sont à l'abandon, ou avec des néons très criards. Et donc elle arrive dans cette ville, elle est presque à deux doigts de l'autisme, enfin en tout cas on voit qu'elle a tellement été coupée de la société qu'elle est inapte à communiquer, à parler aux gens. Et donc voilà, elle arrive dans cette ville, elle essaie de trouver un travail, mais forcément ça se passe pas comme prévu, parce que elle peut pas se coiffer, elle doit avoir une hygiène de vie qui est pas forcément très... très aiguisée, et puis dans son élocution, elle a des cernes énormes, elle est pâle, enfin voilà.
Il y a des scènes poétiques quand même.
Il y a des scènes poétiques.
La scène des claquettes.
La scène des claquettes, la scène
où elle essaye, où elle n'a pas perçu un salaire dans une poissonnerie, oui, et du coup, elle se rattrape un salaire, mais elle ne se l'approprie pas de la manière dont on pense. C'est une scène magnifique. En effet, il y a deux séquences de claquettes qui moi, m'ont vraiment retourné. Alors, ce n'est pas des séquences de claquettes comme on imagine à la Jane Kelly ou Fred Astaire, mais qui dégagent une force poétique, un rapport de l'homme par rapport... Enfin, l'homme.
Dans ça fait un peu les Oscarax, la scène avec les claquettes
Mais c'est très beau, très poétique.
Ah oui, la dernière séquence, puis vraiment ce regard de l'actrice qui possède une détresse, puis à la fois une volonté de vivre, une espérance, une dignité.
Le gros problème, c'est que cette actrice, apparemment, elle a quand même beaucoup de mal à trouver des rôles parce que son visage, physiquement, elle n'est pas considérée comme jolie.
Elle ne rentre pas dans les carcans coréens.
Elle n'est pas refaite. Non, mais jolie, comment ça, elle n'est pas jolie?
Moi, je la trouve très
belle.
Elle a une gueule, en fait.
Voilà. Elle n'est pas toute mimée.
Elle a un faciès.
Elle ne joue pas dans Mademoiselle, quoi.
Bah si,
oui, mais dans un second rôle.
Oui, mais ça, c'est
vraiment... Elle voulait faire valoir dans
Mademoiselle. Petite fleur deviendra grande.
Alors justement, Marc,
C'est pas Kevin non plus.
Oui.
Est-ce qu'il y a un oubli du festival dont tu voudrais...
Oui, il y a un film qui a été
Azura.
Azura, on en a déjà parlé, effectivement, c'était mon coup de cœur, mais...
On l'avait compris. Hein.
Un autre film qui est très intéressant, qui s'appelle Bacchus Lady, et qui sera distribué en France en 2017. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Alors, de quoi parle Bacchus Lady? Originellement, ça parle d'une femme qui est une senior, donc plus de 60 ans, qui est prostituée en Corée et donc qui alloue ses charmes dans des parcs, qui fait de la prostitution, voilà quoi.
Pour senior,
ou pour... Enfin, il y a des gens de 20 ans qui peuvent totalement se payer ces prestations. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le film, au début, on pense que ça va seulement parler de prostitution de senior, mais en fait, ça va beaucoup plus loin et ça parle de la Corée beaucoup plus dans un aspect général où on voit déjà cette personne qui est prostituée senior habite dans un immeuble dans lequel il y a à la fois... Enfin, il y a des personnes qu'on peut appeler marginaux, qui sont par exemple
un estropié,
une transsexuelle, et qui se retrouvent à être amenés à s'occuper d'un enfant, qui c'est un enfant philippin, je crois,
coréano-philippin.
Et voilà, et donc ça narre l'histoire pendant à peu près une heure et demie, deux heures de cette prostituée qui essaye de trouver une sorte d'humanité dans la Corée actuelle et qui s'occupe de beaucoup de minorités actuelles. C'est assez touchant et en fait on croit que le film au début va parler simplement d'amour misérabiliste, mais en fait ça parle beaucoup d'amour, mais ça parle aussi beaucoup de mort. Et ça va parler, au final, de la fin de vie des gens et de comment, finalement, on peut aborder la fin de vie en Corée et comment les personnes en fin de vie sont traitées en Corée. Mmh. Et c'est un film qui est vraiment très touchant parce que ça part vraiment d'un scénario qui peut parler d'amour et qui finalement parle finalement d'amour également, toujours, mais en évoquant un sujet qui est quand même assez sensible, qui est de la mort, et encore plus de la mort parmi les personnes qui sont seniors. Donc c'est un film qui est très bouleversant, on peut penser un petit peu à Haneke de temps en temps, même si c'est moins trash.
C'est quoi, d'amour,
c'est ça? D'Haneke.
Ouais. D'amour.
Ouais, moi, ça me fait penser à Guiraudy quand tu dis...
Voilà.
Il n'y a pas du tout la radicalité formelle que peut avoir Guiraudy.
C'est pas radical. C'est pas radical, mais ça touche des sujets qui sont vraiment... qui prennent au trip, quoi.
Alors, pour l'anecdote, Bacchus Lady, en fait, Bacchus, c'est le nom de la petite boisson fortifiante. Ouais. Et donc, il y a tout un groupe
qu'elle donne, donc,
qu'elle donne à ses clients. Et en fait, c'est vraiment un phénomène de société en Corée. On a fait un reportage là-dessus pour France Culture il y a un an.
Parce que les femmes, enfin les personnes âgées ne touchent pas de retraite, contrairement en France, il faut qu'elles se débrouillent. Et malheureusement, les femmes n'ont d'autre recours que de se prostituer la plupart du temps. Et
On voit une alternative aussi qui est de vendre des papiers.
Tout à fait.
Récolter les cartons.
Et donc, ce petit phénomène de société sont les Bacchus Ladies, où on les trouve assez souvent dans les parcs de Séoul, avec cette petite boisson, donc elles restent quand même discrètes, mais on sait qui elles sont et ce qu'elles font dès lors où on voit qu'elles sortent la petite boisson, parce que c'est pour aider leurs clients.
La prostitution en Corée est légale ou pas?
Non, elle est illégale.
Donc, c'est pour ça que...
Elle est illégale, c'est pour ça qu'elle se cache.
Il y a une descente de flics d'ailleurs dans le fond,
dans l'hôtel.
Elles sont obligées de prouver que
les relations sont
quand même utilisées. C'est abordé aussi dans Samaria de Kim Ki-duk. Et c'est vraiment un phénomène de ces sociétés parce que c'est apparu depuis une petite dizaine d'années. Et que malheureusement, les femmes n'ont que cette alternative. Et cette boisson est donc très connue. Et c'est très évocateur quand on parle des Bacchus Ladies. Alors pour nous, en France, ça ne l'est pas du tout. Mais en Corée, c'est réellement un tabou. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, le journaliste qui avait fait le documentaire sur France Culture dit justement une question très pertinente. Mais ça dit quoi, une société qui laisse ses grands-mères se prostituer? Et là, j'ai eu vraiment mon cœur qui s'est fendu. Je me dis, je ne vois pas ma mamie faire ça. et c'est vraiment un phénomène qui prend d'ampleur parce que malheureusement, elles n'ont plus que ça. Et l'actrice, Madame Yoon, est absolument formidable. Je l'aime beaucoup. On la retrouve souvent dans la filmographie d'Im Sang-soo.
Mais là, elle a des personnages moins sympathiques
dans les films d'Im Sang-soo. Mais là, elle est vraiment attachante, elle est bouleversante, elle est pleine d'humanité, très chaleureuse et même très prise au dépourvu. Mmh. Hein. Elle est prise au dépourvu de chaque. Mais au final, à chaque fois, elle essaie de rebondir et c'est ça qui est beau. Mmh.
Mais ce qui est étonnant, c'est que le scénario de départ qui parle a priori de la prostitution des seniors, en fait, il est complètement éjecté pour parler d'un autre sujet qui est encore plus bourrin, quoi. C'est ça qui est bien amené dans le film.
Alors du coup, The Bacchus Lady sortira en France en 2017. C'était une avant-première avec aussi Madame B, Histoire d'une Nord-Coréenne. Et ce sont deux films donc, sur lesquels on reviendra beaucoup plus longuement, forcément, lors de leur sortie française. Martin.
Bah écoute, il reste The Tiger, vous en parlez.
Mais oui, parlons de The Tiger.
Non, mais The Tiger, bon voilà, enfin c'est quand même un très bon divertissement, faut dire ce qu'il y a. C'est le nouveau film du réalisateur de New World.
Si on regarde notre tableau des étoiles.
C'est pas le meilleur. Non, mais...
ça vaut pas la lapidation qu'il a pu avoir.
Non, mais. C'est intéressant, c'est que ça raconte l'histoire d'un officiel japonais qui veut avoir un nouveau trophée de tigre dans son salon, et il a entendu parler d'un tigre qui est apparemment indomptable dans une certaine région montagneuse de Corée, et il demande à son jeune officier de redoubler d'efforts pour lui ramener la peau de la bête. Et donc il fait appel à des chasseurs locaux pour débusquer le fauve, mais tout ce qu'il ramène, c'est les cadavres de sa femelle et de ses petits, ce qui forcément ne va pas calmer l'enragé. Et donc dans ces régions montagneuses, il y a Che Min-si qui joue un brave chasseur. Mais qui vit très bien avec sa montagne et sa nature, et qui ne prend que ce qu'il doit prendre pour survivre et vivre, lui et son fils, qui sont un peu à l'écart, et on sent que son fils a une petite fiancée et qui voudrait bien se marier et qu'il est trop pauvre pour y aller. Donc bref, tout ça pour dire qu'ils vont partir à la chasse au tigre, que le tigre est super vénère, et qu'ils vont tous morfler, mais alors comme c'est pas permis.
Ouais, le mercurochrome suffit pas.
Ni les petits pansements comme dans The World of Us, qu'on a vu au court-métrage de Young Han. Non, là c'est vraiment les gros bandages qu'il faut. Et Donc voilà, c'est vraiment l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le parti de raconter ça sous la forme d'un conte. C'est-à-dire que le côté
plus, grand. Plus qu'un conte, je dirais une mythologie.
Une mythologie. Oui, ça, donc voilà. Du coup, le côté hyper grandiloquent passe très très bien. C'est-à-dire que.
Pas très bien, disons que la musique. La musique. Certains ralentis sont un peu pesants. Mais c'est vrai que j'ai trouvé du tout fort.
Non, mais c'est la taille du tigre, le fait qu'il défonce à peu près je ne sais combien de soldats en l'espace de 20-10 minutes.
Mais dans le genre, des fois, c'est mieux que The Revenant quand même.
Non, parce que là, pour le coup, c'est l'inverse. Revenant commençait très bien et se plantait sur la fin. Là, The Tiger commence moyennement et plus ça va, plus le film devient intéressant. Pas forcément réussi, mais vraiment intéressant.
Et là où c'est intéressant, c'est que déjà, pour revenir sur le personnage du fils. Enfin, il a une fin qui est on ne peut plus cruelle. J'ai vraiment, j'ai mal pour lui, hein,
et,
vraiment.
Et en plus, il prend du temps pour génialement voir, iconique. Enfin, oui, la séquence des loups qui traînent le corps, etc. Il y a une puissance d'image qui vraiment fait très, enfin, conte de fées dans le sens cruel du terme. Voilà.
Ça m'a fait un peu penser à la scène des hyènes dans Le Roi Lion, des trucs comme ça. C'est où t'as
moi,
le...
j'ai pas pensé à la référence. Non, mais je vois ce que tu veux dire, dans ce côté dire, très viscéral de ce qu'un enfant peut ressentir.
L'antre des méchants, quoi.
Oui, c'est ça.
Et puis, dans sa deuxième partie, il développe donc en gros le parallèle entre le chasseur Cheminsik et sa proie.
Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça.
Et voilà,
c'est pas dire remarquable, mais pas loin.
On n'est pas d'accord.
Eh ben, on n'est pas d'accord.
Alors, voilà. C'est bien.
Et je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas dire, déjà.
Pour rebondir sur cet aspect mythologique que moi, j'ai trouvé trop. En fait, j'ai pas accroché. Mais sur l'aspect mythologique, c'est tout simplement, en fait, le... Le type coréen est très important en fait dans
l'imaginaire, toute la culture chinoise aussi. Hein.
Et l'esprit de la montagne s'appelle le Sanshin. Et le Sanshin en Corée est toujours représenté dans des peintures ou des tissus. Un vieil homme toujours accompagné d'un tigre. Donc c'est véritablement une divinité. On ne touche pas au type coréen. Et c'est pour ça qu'à un moment donné. On voit le général japonais dire que pour les mater ces Coréens, pour leur faire mal, eh ben, il me faut ce tigre. Parce qu'ils pourraient tous les décimer, les Coréens, c'est pas ça. Il faut juste oxyre ce tigre et c'est la fierté nationale qui tombe. Parce qu'ils sont vraiment attachés à cette
Oui et non,
image.
Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs que ça dérange absolument pas d'aller débusquer le
ça
roi.
Ça ne les dérange pas parce qu'il faut quand même qu'ils nourrissent leur famille.
Oui, mais c'est du coup, le respect...
C'est ça le conflit qu'il y a entre les deux chasseurs, entre Cheminsik et l'autre, c'est qu'il y en a un qui dit, mais moi, il faut que je tue pour nourrir ma famille. Il y a un moment donné...
Oui, mais tu vois, dans les
temps... Il dit tuer, mais tu comprends très vite qu'en gros, il a aussi une vengeance personnelle, parce que le tigre... Voilà, la défigurer, mais surtout la tuer.
Il utilise aussi le tigre pour aussi tuer un certain nombre de Japonais. Enfin, je trouve que le rapport... est moins manichéen et plus nuancé que ce qu'on pourrait croire. Et dans il n'y a pas que deux chasseurs. Hein. Dans le groupe du méchant chasseur, il y a aussi des personnes où on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se situent. Donc, en effet, eux, ils sont, bon, on va tuer le tigre parce qu'il faut vivre, mais c'est loin d'être si facile que ça.
Il y a un bon effet bête du Gévaud dans le moment. Genre, tout le monde a peur du tigre et ils y vont, ils se font massacrer, des trucs comme ça.
Bah, parce qu'ils sont censés respecter
finir sur une
animal.
Citation de... Du pacte des loups. De...
Non, mais finissons par dire que le film finit par une espèce de sculpture de relief qui intègre vraiment le film dans une mythologie un peu fantasmée qui m'a assez touché. Ça m'a un peu rappelé par certains aspects certains mangas de Tezuka. Enfin, le rapport avec l'homme, l'animal, la nature, etc. Enfin, il y a un côté fable écologique, mythologie qui mérite plus que l'image de blockbuster un peu lisse et patriotique qu'on pourrait croire.
En tout cas, je pense que vous l'aurez compris, il y a encore des films qu'on n'a pas évoqués de cette 11e édition du Festival du film coréen à Paris.
On n'a pas évoqué Presse, mais c'est pas très grave.
On n'a pas évoqué Collective Invention aussi, qui
ça, c'est
plutôt,
c'était pas
plutôt intéressant.
Non.
Donc il y a encore d'autres films à découvrir, donc c'était quand même un festival très riche dans l'ensemble, qui donne un espoir assez intéressant sur le.
Je crois qu'on est plusieurs à considérer le FFCP comme le festival presque... préféré d'un certain nombre.
Oui.
Cette année, ils sont
les
plus forts.
Spécialisé, puis aussi pour l'accueil du public. Enfin voilà, c'est un festival ouvert, c'est un festival chaleureux, ça, C'est un festival disponible, enfin voilà, c'est faut dire ce qu'il y a.
C'est vrai, la visage humain,
exactement.
Il faut peut-être aussi préciser qu'on en a parlé un peu pour Azura, mais les séances n'étaient pas, et pour les courts-métrages, mais les séances n'étaient pas complètes que pour Azura.
Mmh. Donc Jou était complet.
Vraiment, cette année, c'était vraiment une très très belle année. Ils ont fait quasiment toutes les séances du soir. Elle était vraiment complète, il y avait beaucoup de gens qui étaient refoulés.
Y compris pour les.
Même
on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que même les films de patrimoine, là, il y avait une section, enfin la section patrimoine était dédiée à Shin Sanok. Et là, en effet, même pour les séances à midi ou peut-être même un peu plus tôt, il y avait énormément de monde, il y avait une cinquantaine de personnes, ce qui était du jamais vu. Parfois même à la Cinémathèque, les Incontec, il n'y avait pas 50 personnes dans les salles. Donc non, vraiment, plus que.
Il y avait vraiment un public curieux, fidèle. Bon, après, l'envers, c'est qu'il y en avait qui étaient énervés parce qu'ils étaient refoulés. Ils attendaient dans le froid.
On ne citera pas un ami qui s'appelle Guillaume qui n'a pas pu voir Age of Shadow à deux reprises.
Ouais. Oh mince, deux fois il l'a raté.
Ouais, deux fois il l'a raté. Pourtant, la deuxième fois, il est venu une heure en avance.
Non,
ouais. C'est que là...
Là, on entend des histoires un peu personnelles qui vont continuer par
micro. Fout, en fait.
Et donc, on vous donne rendez-vous, en tout cas déjà l'année prochaine, au prochain festival du FFCP. Il y aura très certainement un 12e festival. D'ici là, le mois prochain, il y aura un podcast consacré à l'actualité du cinéma asiatique.
Satyajit Ray,
on pourrait. C'est vrai qu'on pourrait en parler. Voilà, il y a une rétrospective à la Cinémathèque. See you, Space Cowboys.
Salut.
너 때문에 요구래도 좋고 도둑질도 좋은데 나한테 거짓말만 하지 마.
여자들은 도대체 왜 이럴까?